tu, Guillaume, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, on rigolait en disant qu'on faisait une saison à la Sébastien Ogier. Alors là, c'est plus des saisons à la Dany Sordo en ce moment qu'on fait. Mais bon, on va essayer d'être plus régulier, de se voir plus souvent. En plus, on a vécu en rallye Monte-Carlo absolument dingue. On a beaucoup de choses à se dire. Première chose, comment vas-tu?
Eh ben, salut Fabien, salut à toutes et tous les acharnés du WRC. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais pour des belles raisons, des plannings qui se sont un petit peu chargés de nos côtés. Donc voilà, désolé pour tous nos suiveurs de ne pas avoir pu débriefer la fabuleuse fin de saison de l'année dernière, le superbe titre de Ogier et Vincent Landais. Et puis, bah ouais, on va essayer de repartir pour un peu plus d'e-rallye pour nous cette saison et voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, ravi de te retrouver, ravi de tous vous retrouver. Et c'est parti pour une nouvelle très très belle saison.
Alors, si le Monte-Carlo, il est à l'image du reste de la saison, on va se régaler, on sera obligé de faire des débriefs à chaque fois. Avant toute chose, je vais te rappeler un petit peu le classement général. Donc, victoire d'Oliver Solberg devant Elfyn Evans à 51 secondes 8. Troisième, Sébastien Ogier à 2,02. Adrien Fourmeau, quatrième à 5,59. Thierry Neuville, cinquième à 10,29. Sixième, première WRC 2, Léo Rossel à 12 minutes 58, septième Takamoto Katsuta à 13,05. Après, nous avons Roberto Drapa, neuvième, coucou, bravo, Arthur Palamourgue, qui fait un premier essai, un coup de maître avec la Hyundai i20 en championnat du monde, dixième, Eric Camilli, et onzième, Hayden Paddon. Bon, on a beaucoup de choses à se dire. Alors moi, je vais te dire un petit truc, c'est un rallye tellement dingue que moi, j'ai dit à mes copains le vendredi à midi. Ce sont des écarts de fin de rallye qu'on est en train de vivre. J'ai jamais vu un rallye comme ça. C'était de la folie. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé?
Alors déjà, je me permets juste une petite digression parce que bah, tout simplement voilà, j'aurais voulu dédier ce podcast à quelqu'un qui m'est très 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 cher puisque bah voilà, on a perdu notre papy la semaine dernière et ça a été la personne qui m'a emmené voir mon tout premier Monte Carlo il y a 26 ans en 2000 et tu vois le fait est qu'il a fermé ses yeux la dernière fois jour pour jour, le jour où il m'avait emmené voir ce premier Monte-Carlo, à Gap déjà, à Tallard, où les 206 WRC n'avaient pas redémarré,
Ben
où j'avais
oui.
eu le bonheur de rencontrer un peu une idole locale que j'avais, Cédric Robert, avec sa petite 106 Groupen. C'est la première fois que je l'ai rencontré là-bas. Et donc voilà, il y a eu cette transmission de passion qui m'a amené là où on est aujourd'hui, à discuter de tout ça. Donc merci papy et un grand bravo pour tout ce que tu as fait. Donc pour revenir à nos moutons, bah c'est vrai que ce rallye il a été complètement complètement dingue et de voir à la fin du jeudi soir déjà les écarts qu'il y avait quand on voit que le Dakar il se termine à 2 secondes pour les motos et à quelques minutes pour les voitures après 15 jours de spécial et plus de 2 ou 3 000 km je sais plus chronométré et de voir que c'est à peu près les mêmes écarts ici après 3 spéciales. C'est des choses dont on n'avait plus l'habitude, si ce n'est peut-être au Kenya ou à l'Acropole, mais en tout cas sur des manches à asphalte, c'est vrai que c'était assez dingue. Et les conditions dantesques qu'il y a pu avoir, des conditions d'enneigement, de verglas aussi, c'était juste fabuleux à voir et ça a fait de très très belles images en tout cas. Ouais.
Alors, on a dit que cette saison, on fera un petit peu des choses un petit peu différentes et qui nous plaisent. On va un petit peu changer le format. C'est la première émission, on va rester un petit peu dans ce qu'on sait faire, puis après on évoluera un petit peu. On va y aller équipe par équipe. Puis après, tu vas me donner ton coup de cœur et ton coup de gueule, ou ce qui t'a moins plu. Moi, c'est pareil, donc ça va être mon quart d'heure où je gueule parce que tu sais que j'adore gueuler. C'est un peu le sang méditerranéen qui veut ça. Allez, on va y aller. Il y aura Hyundai. Enfin, Toyota, Hyundai, Ford, le WRC 2, les coups de gueule, bon, bref, t'as compris. Et on va parler des ouvreurs, des pneus, des conditions, on va parler de beaucoup de choses. On va commencer par la performance pardon, de Toyota. Une fois de plus, ben, en fait, on reste sur la fin de saison, performance majuscule de Toyota et exploit une fois de plus d'Oliver Solberg. Parce que moi, j'étais avec mes copains, on était là-haut, on est monté. C'était pas prévu, mais je suis monté. Tout le monde m'a dit. ira pas au bout, ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Bon, c'est sorti sans trop de bobos, mais quand même, performance majuscule de ce jeune garçon qui est en train de s'imposer. Alors moi, j'ai mis une photo, peut-être pas innocente. Est-ce que c'est une passation de pouvoir? Peut-être, l'avenir nous le dira. Mais bon, ils ont l'air quand même de bien s'entendre. Vraiment un gros rallye de Solberg, un très gros rallye de Evans, Ogier qui est là. Et puis après, on va parler de Katsuta et Pajari qui sont un peu sur la même lignée que la saison dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Toyota?
Bah, tu l'as assez bien résumé, hein, performance majuscule, mais j'aurais tendance à dire qu'on s'y attendait un petit peu, même si on pouvait espérer que Hyundai, avec leurs 13 ou 16 jours de tests qu'ils ont pu faire, utilisation de Joker pour développer la voiture, essayer de rattraper un peu le retard qu'ils avaient déjà sur la deuxième demi-saison de l'année dernière. On en a un peu discuté en off à l'intersaison. Moi, je t'ai clairement dit que ma plus grosse crainte, c'était de voir un championnat inter-Toyota, quasiment monomarque. Malheureusement, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, il n'y a aucun doute qui a été levé par rapport à ça sur ce rallye de Monte-Carlo. Les seuls moments où les Hyundai ont pu se rattacher un petit peu, et on parlera d'Hyundai de manière un peu plus détaillée, mais c'était dans des conditions très compliquées, très particulière, mais dès qu'il y avait des conditions un peu plus normales, on va dire, bah, on a vu des top 3, top 4, top 5 même de Toyota, avec quelques coups d'éclat par-ci par-là de Fourmo par exemple, mais pas bien plus. Donc non, bah, après Toyota, ils ont juste répondu aux attentes, je pense. Donc c'est un magnifique triplé qu'ils offrent à la marque. Peut-être pas dans l'ordre qu'on aurait imaginé au départ, ça c'est clair. Mais bon, il est certain en tout cas que c'est les trois pilotes Toyota que moi j'aurais mis sur le podium si j'avais eu à parier. Toujours facile à dire, parce que moi aussi j'étais sceptique sur le fait que Solberg puisse rester sur la route, qu'il puisse être suffisamment mature pour pouvoir gérer des positions sur la route qui sont avantageuses au début et puis après similaires aux autres, avec des temps qui restaient aussi similaires. Il a fait preuve d'une très grande maîtrise de la course. Après, je m'enlèvera pas de l'idée qu'il a quand même été bien avantagé par la position sur la route le jeudi et le vendredi. Il a su garder l'écart le jeudi après-midi quand justement les conditions se rapprochaient un peu pour tout le monde. Mais ouais, il y a quand même ce petit bémol que je peux mettre, mais sans enlever, encore une fois, l'exploit qu'il a fait, parce que c'est vraiment un exploit. Et là, aujourd'hui, on peut dire, et comme tu dis, hein, c'est encore du conditionnel, hein, des futurs champions du monde, on en a vu un paquet. Mais il se positionne vraiment en tant que prétendant à voir déjà ce que ça va donner en Suède, et puis par la suite, rallye par rallye. Mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever qu'il est à 2 sur 2 avec la Toyota officielle. Et qu'il va falloir compter sur lui, ça c'est absolument certain. Ouais.
Alors, on va parler aussi de Ogier, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire aussi sur Evans et sur Pajari, sur Katsuta. Moi, je vais te dire que Evans, c'est un très, très grand monsieur. Il est là, il a sorti quand même un rallye solide en dessous de Solberg, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ogier aussi a fait un rallye intelligent. Quand il a vu que ça commençait à devenir compliqué, il a quand même il a assuré une troisième place qui fait des gros points. Après, je sais pas ce que tu en penses. Bon, Katsuta fait du Katsuta, hein, un peu malchanceux, avec une direction à s'était cassée. Mais moi, la grosse déception, quand même, c'est Pajari. J'ai l'impression qu'il est quand même sur un plafond. Qu'il n'y arrive plus, quoi. Il a un plafond de verre. J'ai cette impression-là qu'il n'y arrive plus. C'est un peu la déception, le gros bémol pour moi de Toyota. Pajari, voilà, bizarre.
Bah oui, c'est clair. Alors je vais peut-être rebondir directement là-dessus parce que bah, pour moi aussi ça a été une très grosse déception. Voilà, il est complètement surclassé par Solberg. Je pense qu'il va falloir qu'il se refasse vraiment une santé très très rapidement. Mais déjà, même le fait avant le rallye que ce soit Solberg qui soit nominé pour marquer des points pour le team numéro 1 de Toyota et que ce soit pas Pajari. Alors, il y a deux aspects. C'est soit pour enlever de la pression à Pajari en lui disant, bah voilà, fais ta course, t'as pas à attaquer, t'as pas, voilà, ta carte blanche, fais ce que tu as à faire, mais fais-le bien. Malheureusement, Ça s'est pas terminé comme le board de Toyota pouvait l'espérer. Et puis même en termes de performance, il a été nulle part, j'ai l'impression, et avec des positions sur la route qui étaient quasiment tout aussi avantageuses que celles d'Oliver Solberg. Donc de prendre des valises comme ça dès les premières spéciales et tout au long du rallye, même sans étincelle, et de terminer malheureusement dans un bas-côté et dans un arbre, ça s'annonce compliqué pour lui. À voir justement si lui, par contre, en Suède, avec sa position qui normalement devrait être avantageuse les premiers jours, s'il est capable de reprendre le dessus par rapport à Solberg, mais sinon, je crains que sa saison puisse être très longue et potentiellement sa dernière. Parce que Toyota cherche la relève à Calero Banpera, à Sébastien Ogier, et aujourd'hui, clairement, la relève, elle s'appelle Oliver, elle s'appelle pas Samy. Donc, à voir. Mais c'est vrai qu'il a la pression. Par rapport à Katsuta, voilà, comme tu l'as dit, hein, du Katsuta, c'est dommage, mais c'est comme ça. On l'avait vu l'année dernière avec Pagliari qui arrivait à se mettre à son niveau et quasiment à être devant lui parfois. Et là, il y a Solberg qui arrive et qui est clairement devant sur pas mal d'aspects. Donc, on sait pourquoi il est là. Ça fait partie du jeu. Ben voilà, à voir. Et à voir s'il y a une relève japonaise pour un Yamamoto, par exemple, qui était engagé. Alors, je t'avoue que j'ai pas suivi les résultats. Je sais pas
Ça finit
trop où il
dehors.
termine,
Ça finit
mais
dehors.
ça finit dehors. Ouais, bon, à voir. Mais s'il y a quelque chose qui arrive, quoi.
Bon,
Et
après,
puis,
on dit ça finit dehors, mais il y a beaucoup de monde qui a fini dehors, donc c'est pas le
oui.
seul, hein,
Ah
vu les
ben non,
conditions.
mais et ça, encore une fois, hein, on est là entre nous, on discute, on était dans notre canapé ou sur le bord de la spéciale. C'est très très facile de juger, et au contraire, il y a zéro jugement. Il y a juste on discute entre nous, on se donne des avis, mais on serait bien incapable de faire tout ça, et un grand grand chapeau à eux, ne serait-ce que d'avoir été au départ et d'avoir été à l'arrivée de certaines spéciales. Mais voilà un petit peu pour ça. Et puis après, Evans, rallye très très solide. Voilà. Constant du début à la fin. Il a été là, il a pris la mesure de Ogier. Il l'a dit dans son discours à plusieurs reprises, cette année c'est un peu différent. Il faut quand même qu'il soit devant Ogier à chaque rallye, parce qu'il sait que Sébastien va aller chercher un 10e titre. Et ça, c'est différent de l'année dernière, où l'année dernière il avait peut-être un peu plus laissé couler, notamment sur le Monte-Carlo, même si je ne pense pas qu'il aurait pu aller jouer avec Sébastien. Mais en tout cas, un rallye solide, conquérant, il marque des gros points. Et puis voilà, pas grand-chose à dire, hein. Il n'y a pas eu d'erreur. Donc bravo à lui. Et puis pour revenir sur Ogier et Landais, de la même manière que ce que tu as dit, je suis très d'accord avec toi. Il a compris rapidement que ça n'allait pas le faire, que les écarts étaient trop importants, et que à part s'il y avait des conditions météo qui permettaient de faire des paris sur des pneumatiques, ce qui n'a absolument pas été le cas, parce que il n'y a aucune monte de pneumatique qui a permis de faire des minutes d'écart dans une spéciale, comme parfois ça pouvait être le cas quand tu avais une spéciale qui était complètement enneigée, l'autre derrière complètement sèche, où les équipages pouvaient partir avec des montes assez différentes. Là, tout le monde était peu prou dans la même configuration. Donc, à part des crevaisons, à part des sorties de route, il n'y avait pas grand-chose à aller chercher, et il l'a vite compris. Et je pense qu'ils se sont mis un ton en dessous pour rester dans la course, rester sur le podium. Parce qu'il se dit aussi, je pense, que cette année, il fait 10 rallyes, mais que 10 rallyes, et que l'année dernière, c'est passé avec un joker en Europe centrale, un zéro pointé, mais que cette année, ça risque de ne pas passer s'il y a un zéro pointé sur 10 rallyes plutôt que 11. Alors après, il y a toujours la possibilité d'en rajouter un par-ci par-là, mais sachant qu'il ne fera pas la Suède, il n'y a plus beaucoup d'autres rallyes sur lesquels il peut compter pour rajouter à son programme. Donc l'objectif pour lui, c'était vraiment de rester dans les gros points, de marquer le maximum. Et puis il l'a encore fait de très très belle manière.
Juste avant de parler Hyundai, je rebondis sur Pagliari parce que moi j'ai eu la chance quand même d'être au bord des spéciales. Alors tu vas me dire, c'est un jugement qui vaut ce qu'il vaut, qui est très con. Et quand tu vois passer des voitures, quand tu vois passer Solberg, Evans, Rougier, même Katsoutak, tu vois passer Pajari derrière, on était tous pareils, on dit, ah oh ouais, attends, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Même au niveau de l'attaque, c'était vraiment pas un ton, c'était deux tons en dessous. Et le problème, c'est que ça se finit dans un arbre. Et c'est ça qui est problématique avec Pajari, c'est qu'il montre rien. Il n'y a pas une spéciale où il va sortir un temps du chapeau et ça se finit dans un arbre. Et c'est vraiment problématique. Tu as l'impression qu'il est vraiment arrivé à un plafond de verre et que.
Oui,
Voilà.
et puis il fallait qu'il se refasse une confiance par
Oui.
rapport à l'année dernière où il sort le dimanche. Il fallait vraiment qu'il soit à l'arrivée. Mais il a été devancé très très régulièrement par des pilotes Rallye 2. Et on connaît la qualité de ces pilotes-là. Hein.
Oui.
C'est pas lui enlever du talent ou quoi que ce soit. Mais on voit aussi que bah, parmi ce vivier de talents qu'il peut y avoir en Rallye 2, bah, certains peut-être auraient plus leur place. Que Pajari en 2027, donc bah, charge à lui de prouver sur cette année, sur les rallyes dont il aura l'occasion, quoi. Mais c'est vrai qu'il est parti un ton en dessous parce que c'est pas des conditions qu'il aime, c'était pas un rallye qu'il aime forcément. Il a voulu jouer la prudence, bah, malheureusement c'est pas passé jusqu'au bout comme c'est pas passé pour un certain nombre d'autres pilotes.
On va passer à Hyundai et je t'avoue que je suis très ennuyé dans le déroulé de l'émission parce que Hyundai, en fait, c'est mon coup de gueule. D'accord? Donc, je le fais avant ou je le fais après? Parce que si je le fais pas, j'en parle pas, mais si je le fais avant, ça, tu vois, ça casse un peu le truc.
On va essayer de limiter un petit peu la longueur de l'émission. Donc, on va
Non.
tout faire en même temps.
Non, je suis très ennuyé parce que je vais te dire un truc, c'est un mode de management sportif que je ne comprends pas. Alors, je vais être très clair avec toi, j'adore Hayden Paddon. J'ai toujours eu des relations un petit peu privilégiées avec lui, on discute sur Internet. Là, il m'avait donné une interview avant le Monte-Carlo. Mettre Hayden Paddon dans une Rallye 1 après 8 ans d'arrêt au Monte-Carlo dans les conditions qu'on a connues, c'est une connerie sans nom. Pourquoi tu ne mets pas Sordo? Pourquoi tu ne mets pas Lappi en Suède? Pourquoi tu ne mets pas Paddon sur la Terre? Ils ont fait tout dans la merde. J'ai l'impression que les conneries les cherchent. C'est l'impression que j'ai. Alors, on va parler bien sûr de Neuville, on va parler de Froment, mais Paddon, ça me pose un problème. J'ai l'impression qu'en fait, parce que quand tu écoutes les commentateurs, ouais, il n'est pas dans le coup, limite on dit qu'il promène, mais en fait, le mec, comment tu veux qu'il promène, quoi? Ça fait 8 ans qu'il n'a pas été dans une rallye 1, dans un rallye comme ça. Je pense qu'il a, sachant en plus du rallye Monte-Carlo, le dernier qu'il a fait, ça s'est fini comme ça s'est fini, tout le monde en le sait. Comment tu veux qu'un mec comme lui sorte un rallye solide? Enfin, avec des conditions pareilles. J'ai l'impression qu'au niveau management sportif, les conneries, on les cherche. Alors, je suis peut-être dur, mais c'est l'impression que j'ai. Après, on va parler de Froment et de Thierry Neuville. Je te laisse la parole.
Non, bah, je pense que tout le monde est à peu près en phase avec ce que tu as annoncé. Déjà, le fait en fin d'année dernière, avant de reconnaître la répartition des rallyes entre les trois pilotes, mais pour un team qui voudrait être dans la continuité, dans la progression au niveau du WRC avec le nouveau règlement qui arrive, d'aller chercher un Sordo, Lapi, Paddon. Et encore une fois, tu sais, moi aussi, comme j'ai pu avoir des relations avec la chance que j'ai eue de pouvoir travailler, bah, justement avec Esa-Pekka et avec Hayden, l'estime que j'ai pour eux, mais ce n'est pas les futurs stars du WRC. Donc, ils ont voulu aller
Non mais
chercher des
je te
pilotes
coupe.
pour aller.
Mais Hayden, c'est un mec super sympa. Je le connais un petit peu moins que toi. Mais il se fait tirer à balles réelles dessus après ce rallye-là. Putain, mais le mec, il est pour rien, quoi. Enfin, le mec, on le
Non,
met
mais
dans une
bien
rallye.
sûr.
Enfin, le mec, il fait. Et je te dis un truc, il sort le samedi. Il n'est pas sorti avant, c'est le miracle. Tu vois ce que je veux dire? C'est un miracle. Bon, bien sûr, il prend des valises, quoi. Enfin, mais enfin, voilà, je te redonne la parole, mais voilà,
Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Ce que je voulais dire, c'est juste que la vision qu'ils donnent de leur engagement court terme sur le WRC, c'est catastrophique. Parce que d'aller chercher ces pilotes-là, alors que, comme on le dit, tu as des jeunes talents qui demandent que à faire une saison complète, à apprendre un peu pour être potentiellement plus performant sur 2027, voire 2028. Il y en a pléthore des pilotes qui pourraient avoir leur chance. Donc d'aller chercher ces pilotes-là, qui en plus, à mon avis, bah, ne sont pas gratuits, alors que tu peux aller chercher des jeunes pousses qui, elles, pourraient être plutôt attirées par le fait de rouler sans avoir à payer. Alors, ça montre des choses un peu contradictoires. Et puis, de justifier uniquement en disant que voilà, ils ont de l'expérience, ils ne vont pas avoir à apprendre les rallyes, qu'ils vont pouvoir être à la fin à marquer des points, on voit qu'aujourd'hui, l'écart entre les rallyes 1 et les rallyes 2, il n'est pas techniquement. Il n'est pas suffisant pour assurer à un pilote qui est plus trop dans le coup d'être devant les meilleurs rallyes 2 et donc de marquer des points. Quand tu vois qu'un. Alors, y a eu des conditions particulières, mais quand tu vois qu'un Léo Rossel, un Johan Rossel, pardon, marque les 5 points du Super Sunday, que. Voilà. Aujourd'hui, marquer des points de la 7e, de la 8e place. C'est pas suffisant pour aller chercher un titre constructeur par rapport à Toyota qui va faire des doubles podiums. Je dirais même, je suis presque certain qu'ils vont faire des doubles podiums sur tous les rallyes. Donc, enfin voilà, c'est pas comme ça que Hyundai va aller chercher un titre constructeur. Donc ouais, cette vision-là, elle est complètement aberrante pour moi. Et en plus, quand t'entends les interviews de Andrew Whitley, le team manager de Hyundai là, mais c'est lunaire. C'est lunaire, il est content de. Enfin, il était content. Alors, c'est un Britannique, il a son flegme à l'anglaise, de dire que tout va bien se passer, etc. Mais non, je suis désolé, il y a le feu là. Il y a le feu chez Hyundai. Ils ont fait 13 jours d'essai. Ils ont même arrêté une journée d'essai parce qu'il y avait trop de neige. Ok, on pouvait pas deviner ce qui allait se passer 15 jours plus tard. Mais enfin, voilà, il faut se préparer à toutes les conditions, justement. Il ne faut pas se préparer qu'à des conditions dans lesquelles tu es habitué à rouler et où tu vas trouver des setups que tu as déjà depuis 3 ou 4
Et,
ans.
tu sais, pour Ayrton, en plus, je lui pose la question, je lui dis, parce que sur l'interview, parce qu'on discute, hein, je lui dis, mais t'as pas peur de, entre 8 ans et maintenant, ça a beaucoup changé? Et il me répond, ouais, mais bon, j'étais habitué quand même à conduire des voitures puissantes, tu sais, avec ça, son électrique, tout ça, ouais, en Australie, en Nouvelle-Zélande, pas en championnat du monde des rallyes, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et la phrase que je ressors, il te dit, ouais, ben, je vais faire l'équipier sur le rallye Monte Carlo. Donc, tu vois très bien que même lui, t'as l'impression qu'il a un doute sur ça, tu vois. Enfin, c'est une connerie
À
sans
mon
nom de le
avis,
mettre, Hayden.
ils ne se sont pas battus tout simplement pour être au Monte-Carlo. Et même Sordo, je pense il avait pas forcément envie de y aller. C'est un rallye qui est trop piège quand ça fait pas longtemps, enfin quand ça fait longtemps que tu n'as pas roulé. Même à Monte-Carlo qui aurait été sec, il y aurait toujours eu des portions un peu glacées, givrées, avec des plaques noires, des portions humides en sous-bois. Voilà, bref. C'est sûr que là, comme tu dis, on l'a trop critiqué, mais même sur d'autres rallyes, je suis désolé, mais ces trois pilotes-là, honnêtement, à part catastrophe, j'en vois pas un qui fasse un podium cette année. Voilà, je vois pas. Et pourtant, encore une fois, hein, c'est des très grands pilotes, mais j'allais dire c'était. Là aujourd'hui, quand ça va se battre comme ça s'est battu devant, quand en plus tu vois un Armstrong qui arrive, qui fait des super bons temps, ouais, la Puma, ouais, l'année dernière elle était un peu en retrait, mais la Hyundai, je suis pas certain qu'elle était énormément devant. Donc ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça.
Parlons de Neuville, parce que
Ouais.
Neuville aussi, c'est un peu le symptomatique de l'équipe. Alors, il tire à boulets rouges sur les pneus, tout ça. Mais est-ce que ce n'est pas une façon aussi détournée de dire que c'est plus dans le coup que ça ne va pas? Parce qu'il sort au check-down, bon, ça arrive à tout le monde. Dès la première, dès la deuxième, il n'est pas dans le coup, il se plaint des pneus. Est-ce que c'est aussi pas symptomatique de il n'y a rien qui va et je ne vais pas y arriver? J'ai l'impression que Thierry. Ben, il fait du Thierry, hein. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais que là, ça commence vraiment, le gap avec Toyota commence vraiment à se creuser, 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 et que ça va devenir compliqué. T'as pas cette impression-là, toi?
Bah si, si, clairement. Et puis en plus, c'est pas rassurant quand t'entends la Dvala à l'arrivée qui dit qu'ils sont encore en train de travailler sur la voiture
Ouais.
2026 et qu'ils n'ont pas tout focalisé sur la 2027 parce qu'ils savent que s'ils arrêtent de développer, bah, c'est la porte ouverte à pas mal de choses et potentiellement des mauvaises surprises. Donc ça, c'est pas rassurant pour Hyundai. Mais oui, de toute façon, enfin, on va pas pouvoir dire bien plus que ça, que bah, pour moi c'est pareil, sauf qu'il est peut-être un peu plus positif et c'est sa manière de faire depuis la deuxième partie de saison de l'année dernière, où il l'avait clairement dit. Il a dit, bah voilà, aujourd'hui c'est à moi d'adapter mon pilotage à la voiture, de me satisfaire de ce que j'ai, d'en tirer le maximum, parce que je sais qu'il n'y aura pas de révolution et qu'il va falloir faire avec. Donc plutôt que de pleurer sur mon sort et de me dire ça va pas, ça va pas, bah, au contraire, essayons de voir le verre à moitié plein et d'aller faire ce qu'on peut. Ce que lui a très très bien fait sur ce rallye. Et il finit à 6 minutes, mais il a quand même fait des performances qui étaient plus honorables en tout cas que ses coéquipiers.
On va parler de M Sport. Alors, pour moi, M Sport, je vais te dire, alors tu vas te dire, il est fou, je vais te dire, c'est bien. C'est bien parce qu'avec ce qu'ils ont, McCarlin, bon, moyen, on va dire, il est sorti, il a fait des bêtises. Armstrong, fou, fou, mais il a sorti des temps, il a fait des trucs superbes. Et Munster, le poissard du rallye, mais sur les chronos où tout allait bien, où il arrivait tout à mettre en place, ben, c'était vachement mieux que la saison précédente. Et je l'ai trouvé un peu plus libéré, même s'il a eu, il n'y a pas une spéciale où il n'y a pas une merde, ou très peu. Mais je l'ai trouvé pas si mal que ça, même si tu vas me dire, ouais, la saison va être longue pour un sport, mais il y a quand même un avenir, un horizon qui peut s'éclaircir, parce que Armstrong, c'est bien. Moi, je l'ai trouvé pas mal, ce jeune. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah ouais, moi j'étais bien plus satisfait de la performance de M Sport que de Hyundai, hein, ça c'est
Ouais.
clair et net. J'en ai parlé un petit peu, mais impressionné par Armstrong, ça c'est sûr. Connaissant l'histoire du bonhomme qui vient quand même du e-sport, hein, qui a gagné le championnat e-sport de WRC avant d'avoir sa chance un peu dans différentes formules de promotion, de la saisir, de gravir petit à petit les échelons, mais il n'a pas une expérience folle derrière un vrai volant. Et de voir les temps qu'il peut faire dans des conditions pareilles, c'est juste dingue. Alors, est-ce que justement c'était de la folie et que c'est passé un certain nombre de fois, parce que lui aussi, il s'est fait quand même quelques petites chaleurs, il allait taper à droite à gauche à plusieurs reprises, il a eu un petit peu de chance avant que ça se finisse mal le dernier jour. Mais en tout cas, il y avait de l'envie, il y avait de l'allant. Il y avait de la pointe de vitesse et ça, c'est extrêmement important parce que, comme on dit, un âne, t'as beau lui tailler les oreilles en pointe, t'en vois pas un cheval de course. Donc, il vaut mieux avoir d'abord la vitesse et puis après gagner la fiabilité. Et à l'opposé de ça, bah, tu as un McErlin qui, rappelle-toi, l'année dernière, on s'était dit, bah, c'est la super surprise du rallye. On était les premiers à se dire, il allait prendre des valises et puis au final, c'était plutôt très bien passé. Et bah là, pour le coup, j'ai été déçu, ouais, de sa prestation. 3 sorties en 4 jours. Une sortie dans la Power Stage le dimanche, qui fait que, chose à noter, malheureusement, M Sport, pour la première fois depuis 24 ans, ne marque pas de points dans un rallye. C'était pas, enfin, ils avaient commencé cette série en 2002, du coup, avec Macrae et Sainz. Et à tous les rallyes, ils avaient marqué des points. Donc là aussi, encore une fois, hein, c'est. Comme un peu en WEC avec Toyota, on peut que tirer son chapeau à M Sport d'avoir été toujours présent. Déjà que ça, d'avoir été toujours présent en WRC, d'avoir porté le WRC à bout de bras pendant quelques années, pendant la disette où il n'y avait que Citroën et Ford justement qui se battaient avec les Grönholm, Latvala, Hirvonen et autres. S'ils n'avaient pas été là, je pense qu'aujourd'hui on se poserait même plus de questions sur l'avenir du rallye. Donc grand grand bravo à eux et ça fait plaisir de voir que malgré des moyens limités, ben, en termes de perfo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas dégueu. Donc à voir sur des terrains un peu plus spécifiques, mais je pense que ce petit Armstrong, il peut clairement amener un vrai vent de fraîcheur chez M Sport et sur le rallye en général, exactement comme Solberg, et peut-être bah, se tirer la bourre aussi avec McErlin. Pour aller dans des vraies directions de développement, d'amélioration de la voiture, chose que peut-être Munster apportait un petit peu moins l'année dernière, où j'ai eu l'impression, alors après, voilà, c'est encore que des impressions, des supputations de l'extérieur, mais que sa première année s'était plutôt très bien passée pour lui parce qu'il s'appuyait sur Fourmeau, sur son expérience, il reprenait les réglages, etc. Et que l'année dernière, bah, il s'est complètement perdu parce qu'il était plus en tant que leader de l'équipe et que c'était pas, enfin, qu'il n'avait pas l'expérience pour, tout simplement. et que peut-être un retour en Rallye 2 cette année pourrait lui faire du bien. J'ai entendu dire que il évoquait potentiellement un siège chez Hyundai aussi. J'y crois pas. À voir. Mais en tout cas, ouais, moi, enfin, je suis un peu plus, comment dire, réservé quant à ton enthousiasme sur les temps de Munster.
Non, mais pas enthousiasme, mais je l'ai senti plus libéré d'un poids. Il a fait des bons temps quand tout était OK. Pour en finir avec Munster, je t'ai dit un truc. Hein. Moi, j'ai un petit peu de budget. Je te fais une Bertelli. Hein. Je préfère louer une ou deux fois la Toyota que trois fois la Hyundai, peut-être. Hein. Ce sera peut-être plus avantageux. Hein.
Ouais, alors après, ils sont pas dans la même optique. Hein. Bertelli, lui, il est vraiment là pour se faire plaisir, pour prendre du kiff sur des rallyes un peu dingues. Munster, il est plus dans une
Non,
construction
mais.
de carrière. Mais oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Bon, on va partir sur, avant de parler de trois sujets qui te tiennent à cœur et qui me tiennent à cœur aussi, on va parler de ton coup de cœur et de ton coup de gueule sur ce Monte Carlo. Je commence par le mien. Alors, un recel peut en cacher un autre. Mon coup de gueule, c'est, bon, il y avait Hyundai, j'étais obligé, hein, mais le vrai coup de gueule, c'est Johan. En fait, il était malade, mais en fait, Johan, tu fais chier parce que tu sors dès la première. Et tu aurais pu faire un rallye magique. Et puis, voilà, il aurait pu porter comme Gryazin les couleurs de Lancia haute. Et puis, ça aurait fait un clin d'œil à l'histoire. Puis, je pense que l'auto est déjà bien née. Elle aurait été performante. Voilà, j'aurais été curieux de savoir sans problème ce que ça aurait donné. Et puis, le coup de cœur, c'est ses petits frères, Léo Rossel, qui s'impose, qui fait un rallye solide. Comme quoi, la C3 n'est pas finie non plus, hein, loin de là. Je trouve que c'est voilà, c'est un peu les Rossel, c'est le chaud et le froid, mais bon, pour des raisons différentes. Mais c'est des très très grands pilotes tous les deux. On les reverra en 2026 sur des programmes chacun. Mais bon, je doute pas que. Mais bon, j'aurais bien aimé voir cette Lancia un peu avec Johan à la bagarre sur tout le rallye. Et toi, c'est quoi?
Ouais, alors juste pour rebondir, bah déjà, je pense que la Lancia, on l'a déjà plutôt bien vue, hein, parce que avec Gryazin qui a fait des temps quand Rossel n'était pas là, et puis après Rossel, ça reste quand même le meilleur performeur. Léo,
Oui,
Johan, pardon, Johan
justement, ouais.
Rossel, avec la Lancia, ça reste le meilleur performeur du rallye en rallye 2. Donc la perfo, elle est là. Donc là, on peut être assuré là-dessus. Hein. De toute façon, on l'était déjà. On connaît un peu les équipes de Stellantis et on sait que cette Lancia, c'est ni plus ni moins qu'une très grosse évolution de la C3. Il y a à peu près toutes les pièces de la Lancia qui peuvent se monter sur une C3, je crois, à part l'aileron arrière ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Donc, ouais, un grand bravo à Léo Rossel. Par contre, ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour sa suite de saison, parce que j'espère que ça va l'aider à capitaliser, à prendre un peu des budgets, des partenaires pour monter une saison plus complète en Rallye 2 et en WRC 2 pour potentiellement prétendre à quelque chose de mieux sur l'année prochaine. On attend toujours aussi de savoir hein, qui vont être ces fameux préparateurs. On en entend parler de 10 apparemment qui seraient intéressés pour développer une voiture 2027. Pour le moment, je crois savoir qu'il n'y a que Toyota et l'équipe belge
Oui,
de Lionel Hansen qui ont officialisé le fait de développer
c'est
une
ça.
WRC 2027. Je crois que M Sport ne s'est même pas officiellement porté candidat. Donc, à voir le nombre de places qui seront disponibles aussi dans cette nouvelle catégorie Rennes. Mais en tout cas, c'est excellent pour Léo Rossel pour se positionner par rapport à ça. Parce que les Johan Rossel et Nicolas Gryazin, bah, on connaît, on sait que ça va être vite. Mais il faut derrière que bah, les autres petits jeunes, et là aussi, c'est un coup de cœur, hein, Pella Mourgue, qui fait un très très beau rallye aussi. De la même manière que Camille, finalement. Tu vois, Eric, je pensais pas forcément qu'il soit aussi à la fête tout de suite, même si
D'accord.
c'est un rallye qu'il connaît bien. Avec la nouvelle voiture, avec la Skoda, j'étais, enfin voilà, se demandait à être confirmé. Mais il va y avoir encore une belle bagarre en rallye 2 cette année. Et puis il faut pas oublier, bah, justement, l'Italien d'Apra. J'ai mangé son nom. Enfin, je veux pas l'écorcher, surtout Jürgensen, qui a mon
Oui, tout à fait.
Peut
Tout à
être un
fait.
vide aussi. Donc ça va être sympa à suivre. Ça va être sympa à
Oui.
suivre. Et puis moi, mon gros coup de cœur, je vais te dire très clairement. Et tu vois, on innove un petit peu. La petite surprise, je la présente maintenant. Tu vois, c'est l'Alpine. Et tu vas comprendre pourquoi de Raphaël Astier et Denis Girodet. Parce que je voulais faire un très très grand coup de chapeau bah, justement aux ouvreurs. Puisque Denis ouvrait avec Brian Bouffier pour Oliver Solberg. Et en fait, c'est une vraie, vraie victoire d'équipe, tout simplement. Un Monte-Carlo comme celui-là, c'est certes un pilote, un copilote, mais c'est aussi un ouvreur et son co-ouvreur qui sont dans les spéciales 3-4 heures avant, qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller dans les premières spéciales et qui corrigent les notes, qui donnent leur avis sur les choix de pneumatique, sur comment ça va évoluer. Et ce rôle d'ouvreur, il est mis en avant sur le Monte-Carlo. C'est un des seuls rallyes où on le met vraiment en avant, mais pour moi, pas encore assez. On ne sait pas qui sont ces ouvreurs. Il y avait des Juho Onninen, il y avait d'autres très grands pilotes de WRC anciens, et un très grand bravo à eux parce que c'est un travail d'acharné, là aussi, qui est extrêmement chronophage, qui demande une énergie dingue. Et je suis très 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 content pour Denis qui puisse avoir cette victoire aussi avec Oliver. Donc un grand bravo à eux.
Il s'est pas trompé, Solberg, hein, en choisissant Girodet Bouffier. Hein.
Non, 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 non,
Ah, il s'est pas trompé. Il
Il
a
a été
été
bon.
bon.
comme ça, ouais, ça fait
Ouais,
quelques années que c'est
on
comme
va
ça.
revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. On va revenir sur le rôle des ouvreurs. Et je vais demander à toi, qui a vécu ça, toi, de l'intérieur. Hein. Moi, j'ai toujours vécu ça en tant que passionné, spectateur. Moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé cette année, puisque j'ai eu de la chance d'être dedans. J'étais notamment dans un spécial de Saint-Nazaire, qui était sèche. Avec des guillemets, d'accord. Le premier passage, ça allait, mais le deuxième passage, dans la même spéciale, écoute bien, j'ai eu du vent, de la pluie, de la neige, les cordes étaient pourries, archi pourries, dégueulasses, c'était un champ de mine, c'était enfin, voilà, c'était plus du rallye de terre qu'autre chose. Tu me parles du rôle des ouvreurs, mais j'aimerais bien que tu me parles comment ça se passe. Parce qu'il faut quand même avoir une confiance absolue pour faire passer tous ouvreurs 3 heures avant, parce que tu sais très bien quand même, la spéciale va évoluer. T'as quand même une évolution des conditions et des températures. J'aimerais bien que tu me parles quand même de ce rôle-là, comment ça se passe, comment ça s'articule, et qu'on parle aussi sur du rôle des pneus, parce que les clous, pas les clous, les machins, comment toi tu as pu définir des stratégies par rapport aux conditions spéciales, parce que partir en clous quand même sur du sec, c'est pas non plus le plus facile, ça s'use, enfin tu vois. J'aimerais que tu me parles un peu de tout ça. De comment
Ouais,
ça se prépare?
bah écoute, le rôle des ouvreurs, bah c'est comme tu l'as dit, hein, comme on l'a dit, c'est déjà assez clair. Hein, donc c'est un équipage, un pilote et un copilote qui passent dans la spéciale 3-4 heures avant le passage des vraies voitures et qui repassent derrière après la première spéciale de la boucle et avant la deuxième spéciale de la boucle de l'après-midi, bah pour justement constater l'évolution de la route, comment elle s'est dégradée par rapport au premier passage, où sont les pièges, est-ce qu'il y a eu des changements d'adhérence, est-ce qu'il y a des nouveaux pièges, tout simplement, des pierres qui ressortent ou autres. Et c'est pour ça que il y a vraiment une confiance aveugle qui est faite entre les ouvreurs et les équipages, parce que bah, tout simplement, c'est un peu leurs anges gardiens, on va dire, pour détecter les nouveaux pièges et corriger les notes qu'ils auraient pu prendre pendant des reconnaissances qui déjà ont été faites dans des conditions qui étaient complètement différentes. Parce que les reconnaissances faites le lundi, enfin le mardi, le mercredi, pour des spéciales faites le dimanche complètement enneigé dans le Turini, comme on a pu le voir, bah, ça n'a plus rien à voir. Et donc ils sont là, ils connaissent sur le bout des doigts les systèmes de notes des équipages. Et puis c'est tout simplement une confiance qui se construit dans la durée, de la même manière que un pilote et un copilote, ils ne peuvent pas performer dès le premier rallye ou alors c'est extrêmement rare. Et ben là, avec une paire d'ouvreurs, c'est exactement la même chose. Denis et Brian, ça fait des années qu'ils ouvrent pour Oliver et c'est comme ça que ça se construit. Et puis il y a des échanges qui sont incessants entre les spéciales aussi pour savoir quelles sont les évolutions de la route, comment est-ce qu'on définit qu'un certain pourcentage est glacé et enneigé et sec. Et tout simplement, après, bah, c'est un petit peu des mathématiques, c'est un peu du doigt mouillé aussi, c'est de se dire, bah, écoute, il y a 50% de la spéciale qui est full glace, et derrière, il y a 50% qui est complètement tarmac sec. Donc, est-ce que je pars en clou ou en pneu slick? Bah là, après, tu sais combien de temps tu perds avec un pneu slick sur de la glace et combien de temps tu perds avec un pneu clou sur du sec. Et tu fais les mathématiques pour savoir ça. Enfin, pour trouver le bon compromis, ou en tout cas, ce qui te paraît le moins pire. Et tout ça, c'est des données que tu collectes en essai, que tu corrèles avec des essais, par exemple, sur le terrain. C'est pour ça que les Hyundai, à la base, elles sont parties en clou au shakedown aussi, bah, pour essayer peut-être de concaténer encore un peu plus d'infos, pour savoir combien ils allaient perdre exactement, sur des spéciales un peu typiques et qui allaient se dégrader aussi avec des cordes qui se salissaient de plus en plus. Bah, tu vois, tout ça, c'est des choses qui se font en essai. Et il faut se préparer au maximum de scénarios possibles. Voilà. Et puis autre chose aussi qui est très importante, c'est les météo crews. Donc c'est les équipes météo qui sont envoyées par les constructeurs sur les spéciales. Il faut savoir que chaque constructeur a le droit, je crois, à 3 équipes météo par spéciale. Donc c'est des gens qui vont dans la spéciale et qui marchent tout simplement autour de leur point d'attache, on va dire, mais ils arrivent à marcher 5 km en amont, 5 km en aval, entre les passages, pour justement, bah, apprécier aussi, bah, tout ce qui est météo pour le coup, parce que ça, les ouvreurs ont partiellement ces informations, ils voient comment c'est à l'extérieur de la voiture, mais quand ils sont dans la spéciale, ils sont dans la voiture, donc ils voient peut-être la température au tableau de bord, mais ils n'ont pas l'info de la température au sol, ils n'ont pas l'info du vent, effectivement, ils n'ont pas l'info de je suis versant sud, versant nord, il y a le soleil qui sort, ou alors non, il est encore caché alors que ça devrait fondre. Et ça, ces équipes météo, elles sont aussi là pour donner toutes les infos en temps réel et le plus précisément possible aux équipages avant qu'ils quittent l'assistance avec un certain choix de pneus. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est tout un panel d'infos qu'il faut collecter, qu'il faut traiter, analyser, et puis au final, tu en ressors 5 ou 6 pneus avec des types différents à mettre sur la voiture, en espérant que ce soit le moins pire.
Mais quand même, j'étais, pour m'en dire sur toi, sur les conditions, j'ai quand même été assez impressionné. C'est un rallye qui est sorti peu sur les 2 premiers jours. Le jeudi soir, il n'y a personne qui est sorti. Le vendredi.
Non, non,
Ouais, il y a marqué Earnin.
Non, non, la deuxième spéciale, je crois qu'il y a 12 voitures qui sortent, 12 ou
Oui, mais
13 voitures qui
pas
sortent.
des ralliants. Pas
Oui,
des
mais oui.
ralliants. Sur les gros, quand même, tu n'as pas eu tant de sorties que ça, quand même. Hein. C'est pas été.
Ouais, t'as quand même eu quelques chaleurs, donc
Oui,
bon.
mais bon, ils sont tous restés. Alors moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil. Tu sais, moi, si j'étais un pilote qui a participé au Monte Carlo, moi, j'arrête ma carrière, tu vois. Je prends un très gros cadre, tu vois, et je me fais encadrer les résultats. Si je te dis spécial 14 et spécial 15,
Fontana.
c'est beau quand même. Alors, on le sait, c'est pas les
Ouais.
mêmes conditions. Mais putain, quand même, le mec, il fait 2 scratchs sur la 14 et la 15 et il met de rien à 27, 22 secondes. C'est beau quand même, pour le clin d'œil, c'est quand même
Oui,
sympa.
bah, c'est beau. Tu vois, encore une fois, ça souligne un peu les efforts de M Sport. Parce que c'est une Ford Rally 3 qui fait ses temps scratch, effectivement. Donc,
Oui.
Rally 3, c'est la troisième division en termes de performance, et il arrive à être devant tout le monde. Donc, oui, bien sûr. En fait, c'était des spéciales qui étaient tellement enneigées, tellement glissantes que déjà, il est parti 1 heure après les premiers. Donc,
Ça
des conditions qui étaient beaucoup plus
change
chaudes.
complètement.
Déjà, voilà, de la neige qui avait commencé à fondre un petit peu, et puis la trace qui avait été faite par les, je sais pas combien il y a eu, 25, 30 voitures qui sont
Ouais,
passées,
ouais.
qui ont gratté la glace, qui sont allées chercher du goudron, voilà. Et puis en plus, c'est des voitures qui sont plus petites, il y a moins de puissance, mais dans ces conditions-là, c'est pas forcément un désavantage, parce que tu as moins de patinage, tu as moins de couple, enfin, voilà, t'as moins de réactivité et c'est beaucoup plus progressif. Donc, tu peux être beaucoup plus coulé dans ton pilotage et ça permet de gagner du temps. Mais un grand, grand bravo à lui. Ouais. Et puis, j'allais dire, heureusement qu'il a un temps forfaitaire dans la troisième spéciale du dimanche, parce que là aussi, je pense qu'il pouvait être pas trop, trop mal placé pour aller prendre des points dans le Super Sunday
Et
et, euh, Déjà que c'est, comme je te le disais, une Rallye 2 qui marque tous les points du Super Sunday, ou une partie, je ne sais plus exactement. Ouais, c'est Rossel qui fait les points du Super Sunday.
C'est ça.
Tu as Rossel et Fontana qui est 4. Donc tu vois, non, c'est
Non.
beau, c'est beau, c'est beau.
Ah, c'est beau. Bon, on en a terminé de ce Monte Carlo ou t'as
Et bah
encore un truc à
écoute, moi
dire?
j'avais juste un truc aussi à préciser, c'était un peu mon coup de gueule, parce que du coup j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais c'est clairement sur, je vais pas être forcément original, mais sur les pneus Hankook.
Ah, vas-y.
Et puis pour pondérer un petit peu les gens qui, pareil, qui tirent à boulets rouges sur Ogier, à dire que c'est pas une attitude de champion, qu'il est tout le temps en train à se plaindre parce que ça va pas, parce que et pourtant il a les mêmes pneus que tout le monde et il n'arrive pas à faire les temps, donc c'est lui le problème, c'est pas les pneus, etc. Il y a plusieurs choses. La plus grosse problématique, c'est que en fait c'est des problématiques qu'il y avait déjà l'année dernière, et que sur le peu de moments où il y a eu des conditions un peu piégeuses comme ça, tous les pilotes déjà avaient dit que c'était dangereux, qu'ils pouvaient pas, ils pouvaient pas assurer de rester sur la route, et que c'était trop imprévisible. Et là, je pense que Hankook a juste fait le pari que les conditions météo seraient similaires à l'année dernière, et que de toute façon, sur les 15 dernières années, en Monte-Carlo enneigé, il n'y en a pas eu tant que ça, et que ça ferait l'affaire. Mais là, force est de constater que ça a été un drame, tout simplement. Je pense que ça aurait pu être vraiment dramatique. Imaginez un pilote, enfin, ou des pilotes qui sortent de la route, qui vont, ouais, qui se font mal, ou qui font mal à des spectateurs, j'allais dire, à cause de pneus inadaptés. Parce que là, c'est de sécurité dont on parle aussi,
Oui,
hein.
oui.
Il y a la performance, mais il y a aussi la sécurité. Et si ces pilotes étaient autant garés à certains moments, c'est aussi tout simplement parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité et qu'ils ne se sentaient pas d'attaquer avec des pneus qui ne le permettaient pas. Donc ça, c'est extrêmement dommageable. On voit la limite aussi des décisions qui ont pu être prises par la FIA, parce que l'année dernière déjà, et sur toutes les surfaces, le pneumatique a été très, très régulièrement mis en avant, et pour des mauvaises raisons. Donc on se rend compte que ce choix qui a été fait pour Hankook, c'était clairement pas pour la performance, pour aller chercher quoi que ce soit. C'était uniquement, je pense, un choix plus de promotion, et de celui qui donnait le plus d'argent pour être sélectionné. Il y avait déjà eu un gros gros gap en arrière entre les Michelin et les Pirelli. Finalement, Pirelli, on se rend compte que c'était pas si mal que ça. Et là, il y a encore un gros pas en arrière qui a été fait. Et c'est très, très dommageable. Et aujourd'hui, que Ogier tire la sonnette d'alarme, qui s'exprime sur ces aspects-là, je trouve que c'est important aussi. Parce que de la même manière que de jouer un championnat sur un coup de dé, sur des crevaisons, sur ce genre de choses, de jouer à Monte-Carlo et de jouer potentiellement la sécurité des équipages, c'est tout aussi dommageable. Et encore une fois, pourquoi est-ce que lui n'a, j'allais dire, été beaucoup plus en retrait que certains autres? Moi, j'aurais tendance à penser que Oliver Solberg, par exemple, n'a jamais connu autre chose que
Oui,
ses pneus Hankook. Et je
c'est
suis
ça.
persuadé, avec tout le talent qu'ils ont, que des Ogier, des Evans ou des Neuville ont été habitués à des choses beaucoup plus perfos. Et que de faire le step en arrière dans sa tête et de se dire, ça, j'ai plus, je pouvais faire ça, mais là, aujourd'hui, je peux plus, il y a des dixièmes, il y a des dixièmes par kilomètre
Ouais, il y a
qui
peut-être
font que.
aussi l'instinct de survie, parce que peut-être que Solberg, lui, est dans un délire que voilà, il a la maxi-attaque, peut-être que lui, il sait aussi peut-être la limite d'une rallye 1. Tu
Oui,
vois, il sait que là, ça peut passer une fois, mais ça passe pas deux. Peut-être
ouais.
qu'il le sait.
Mais je pense que, enfin, je suis convaincu vraiment qu'il y a cet aspect. Quand tu as connu quelque chose qui est perfo, de pas arriver à, même si tu penses l'accepter, tu as toujours un truc qui te fait
Ouais.
faire le pas en arrière et te dire, mais merde, quoi, pourquoi ça marche pas? J'ai beau donner tout ce que je peux, en fait, c'est pas moi le problème, c'est le pneu. Et alors que quand tu as connu que ça, tu t'adaptes tout de suite à ce que tu as, en fait. Et je pense qu'il y a un vrai gap de performance à ce niveau-là.
Je vais revenir sur ce monsieur-là qui est derrière moi, en haut là. Tu as fait une introduction et je voudrais un peu clôturer ce débat qui me gave depuis des années. Pour moi, il y a trois temps. Il y a Didier Auriol qui a montré la voie, d'accord? Il y a Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde, qui est devenu une superstar mondiale. Et beaucoup de gens ont découvert le rallye, ont grandi avec le rallye. Donc c'est normal que Sébastien Loeb, c'est Sébastien Loeb. Et puis il y a Sébastien Ogier. Et Sébastien Ogier, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a 9 titres de champion du monde. C'est un très grand seigneur de la trempe des plus grands. La seule chose qui différencie peut-être Sébastien Loeb de Sébastien Ogier, c'est que Sébastien Ogier, il n'aime pas perdre. Et personne n'aime perdre, c'est un compétiteur. Et peut-être qu'il a un discours peut-être moins policé que Sébastien Loeb. Et ça ne fait pas de lui un mec plus sympa ou moins sympa. Ils ont des caractères différents. La seule chose que les gens doivent retenir, c'est qu'il faut qu'on profite de ça. Parce que ça, peut-être que pendant des années, il n'y en aura plus des champions du monde en France. Et que les guéguerres de clocher de Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, ça casse des bonbons. Ouais, on aime tous plus un pilote que l'autre. Moi, le premier, moi, j'adore Elfyn Evans. Si je ne m'en cache pas, je voudrais qu'il soit champion du monde parce que j'adore le bonhomme. Mais quand lui, champion du monde, ben, je suis autant heureux parce qu'il est français, cocorico. Et les guéguerres, là, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me gave un peu. Voilà,
Ouais.
c'est ce que je voulais
Alors...
dire. Et tirer à chaque fois sur Sébastien Ogier parce qu'il a dit là ça, ben, il ouvre sa gueule. Il a la légitimité pour le faire et c'est très bien aussi.
Oui, et puis enfin, alors là, on pourrait faire un épisode complet sur
Oui.
Ogier, qui est le GOAT. Y a pas de, y a pas de, enfin, si, on peut avoir des discussions, c'est intéressant d'avoir des discussions, d'avoir des débats. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des ni-ni, il y a des voilà. Faut pas oublier non plus ce qu'il y a eu avant. Comme tu le disais, déjà, Didier Auriol, les exploits qu'il a pu faire
Mais oui,
d'aller gagner dans des
bien
rallyes où
sûr.
aucun Européen ne l'avait, enfin, aucun, comment dire, Latin ne l'avait fait. Après, t'as Loeb qui arrive, qui casse la baraque et qui va un peu casser la bouche à tous les anciens du WRC de la grande époque avec les Subaru, les Mitsu et autres. Qui arrive, qui amène un style de pilotage bien à lui, qui gagne avec Citroën et que avec Citroën pendant des années, parce qu'il a une voiture qui est faite pour lui, qu'il a développée, c'est un excellent metteur au point, mais il sait aussi s'adapter à énormément de choses. C'est un très très grand monsieur, mais il faut pas oublier non plus que lui aussi, il a ouvert sa bouche, hein,
Oui.
et les règles de balayage, etc., avec Elena, ils ont quand même pas mal
Oui.
fait de polémiques aussi à ce moment-là. Et puis après, il y a eu l'affaire, effectivement, avec les deux Seb, quand Ogier arrive chez Citroën, le petit jeune qui veut bousculer la
C'est le vieux, bah
hiérarchie,
oui.
qui apparaît comme un peu le vilain petit canard, et puis en plus, il n'est pas content, il part chez des Allemands. Il faut pas oublier, hein, quand même ce qu'il a fait, une saison de développement avec la Skoda, pour pouvoir développer la Polo comme il le souhaitait. À ce moment-là, je suis désolé, il est pas grand-chose. Il a gagné quelques manches en WRC avec c'était quoi, la C4
Ouais, c'est ça.
et la DS3 derrière. Mais il va quand même chez des Allemands et qui n'ont aucune garantie. Donc de construire ce qu'il a construit et la domination qu'il a pu avoir avec Volkswagen, pardon, c'est quand même dingue. Et puis après, d'aller gagner avec un tout petit constructeur chez
Une
M-Sport,
sport.
de revenir chez Toyota, de refaire la misère à tout le monde. Moi, je suis, enfin, au contraire, tu vois, maintenant, je suis content parce que 9 titres chacun, il n'y a plus de débat en fait. Ils sont à égalité. Il y en a. L'un et l'autre sont aussi haut sur la montagne et ils peuvent se regarder en face. Il y en a un qui l'a fait de manière consécutive, l'autre l'a fait avec plusieurs constructeurs différents. Il y en a un qui l'a fait avec une saison partielle choisie. Il y en a un qui l'a fait avec une saison partielle parce qu'il s'est cassé l'épaule en faisant de la moto. Voilà, il y a plus de discussion.
Mais
Et
c'est dur de comparer les époques parce que tu vois, moi
c'est pas
je vais être
possible.
provocant, je vais te dire un Loeb ou un Ogier, peut-être que l'aimait à l'époque des Macré, des Auriol, des Sainz, tout ça, peut-être qu'ils n'en gagnent pas neuf aussi, tu vois. C'est dur de comparer les époques. Peut-être qu'ils ont
Ah ben.
gagné, peut-être qu'ils ne gagnent pas. Et tu vois, cette image, elle n'est pas si innocente que ça parce qu'ils se font la gueule. Il a 2 minutes là, hein, dans la vue. Ils sont sympas. Et puis après, la dernière spéciale, il va voir le père, il va voir Peter Solberg, il regarde le fils arriver. J'aime pas cette façon que certaines personnes dans les commentaires que je lis de le faire passer pour un mec pas sympa ou pas ouvert. Enfin, tout le monde est comme il est et c'est un très grand champion et voilà.
Et oui, mais s'il a été champion aussi, c'est parce que justement, c'est pas un bisounours. Enfin, je suis désolé, un Loeb, il va arriver,
Aucun.
il met les fesses dans la voiture, il s'adapte à ce qu'il y a. Et on l'a bien vu avec l'Alpine. Hein. J'ai eu la chance de bosser un peu avec lui, de voir comment il fonctionnait. Bah, il n'est pas là pour tout révolutionner non plus. Hein. Il est là pour s'adapter, tirer le maximum de ce qu'il a. Et ça marche plutôt très bien. C'est un talentueux, c'est un talent pur. Mais il faut pas oublier qu'il a les fesses dans une voiture très très régulièrement et beaucoup plus que ce qu'on voit à la télé ou sur les magazines. Alors que Ogier, à l'opposé, bah, par contre, c'est un méticuleux, c'est un besogneux, c'est un mec qui va absolument rien laisser au hasard. Je me rappelle, tu vois, de l'histoire quand il est arrivé chez M Sport, où la première chose qu'il a faite, une des premières choses en tout cas, c'était de dire que les doudounes qui prenait les équipages pour être entre les spéciales était trop lourde et que ça servait à rien d'emmener
Ah
ça, que lui il pouvait très bien s'adapter et mettre une écharpe ou un cache-cou plutôt que d'avoir 500 grammes de plus sur sa doudoune. Voilà, et ça c'est le niveau de détail qu'il va aller chercher à tous les niveaux. Et tu peux écouter quelques podcasts, notamment avec Vincent Landais qu'il a fait là récemment après son titre. Il explique le niveau auquel lui il a dû se mettre pour pouvoir matcher avec Ogier, bah, voilà. Et si ça n'a pas marché avec Benjamin Veillas, voilà, c'était peut-être qu'il y avait des niveaux d'exigence en tout cas qui étaient différents. Mais pour en revenir sur la comparaison des époques, c'est pareil, il faut arrêter. On compare
oui.
tout le temps les époques à dire c'était mieux avant ou alors non, c'est mieux maintenant. Mais c'est différent. C'est comme, enfin, on va prendre un exemple typique. Toi, tu es un grand passionné de basket, moi aussi. Et ben en NBA, qui c'est le meilleur? Qui c'est le GOAT? C'est Jordan, c'est Bryant, c'est James. Bah, ou
Curie,
alors,
c'est
est-ce que c'est McRae?
Curie.
Est-ce que c'est Larry Bird? Voilà, ils sont tous différents. Il y en a certes qui ont beaucoup plus marqué l'histoire. Enfin, je suis désolé, hein, pour moi, hein, Michael Jordan, ça reste quand même la plus grosse icône pour beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, tu peux pas enlever ce qu'a fait un Kobe Bryant. Enfin, je
Eh
suis désolé.
oui.
À l'époque, j'étais pas fan, mais quand tu vois l'histoire du bonhomme, quand tu vois ce qu'il a fait, c'est incroyable. Et pareil, encore une fois, aujourd'hui avec LeBron, je suis pas un grand fan non plus, très loin de là. Mais tu peux pas enlever sa longévité, sa soif de vaincre, son hygiène de vie complètement irréprochable, énormément de choses. Ils ont, enfin, de toute façon, c'est des humains. Ils ont tous des bons côtés, des moins bons côtés. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des critiques. Donc, faisons ce qu'on a à faire. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Et s'ils en sont là, c'est qu'il y a des raisons. Et ils n'ont rien demandé à personne. Et ils doivent rien à personne, surtout.
Puis moi, je suis entièrement d'accord parce que alors je vais te faire un parallèle. Hein. Moi, je suis allé en tant que spectateur voir le Monte-Carlo cette année. Je me suis régalé. De la WRC2 à la Rallye 1, je me suis régalé. On va dire que les 30 premières voitures, 25 premières voitures, c'est extraordinaire. Moi, j'ai souvenir d'avoir eu la chance de voir des San Remo au début des années 2000-2001. Alors, effectivement, tu avais une vingtaine de WRC de pointe. Et derrière, tu en avais 20. Et les 20 derrière, c'était les gentleman driver. Donc tout le monde parlait, on discutait. En fait, tu voyais passer une bouleversée, mais ça n'avançait pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur de comparer toujours les périodes. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, chaque période a eu son charme, ses défauts. Et là, on est dans une période, ben, elle a ses charmes, elle a ses défauts, c'est une transition, c'est compliqué. On va voir ce que l'avenir va nous proposer, puisque peut-être que dans un an, à la même époque, on se dira, putain, les Ralliances, c'était génial, c'était le. Tu vois ce que je veux dire? C'est
Oui.
différent, c'est dur de comparer. Voilà.
Mais ah oui, et puis on oublie trop vite. En fait, on est dans la culture du maintenant, tout de suite, du pressé,
Oui, oui.
média. Et tu vois, je suis content qu'on prenne un peu de temps aussi pour discuter, pour échanger. Et encore une fois, vous l'aviez déjà vu dans les épisodes précédents, mais on essaye d'interagir. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, à nous envoyer vos avis, à vouloir comment vous Enfin, ce que vous pensez, vous aussi, parce que tous les avis sont importants et il y a à prendre et à apprendre de tout le monde.
Oui.
Et tu vois, c'est important qu'on prenne un peu de temps pour en discuter plutôt que de faire des flashs de quelques minutes pour dire ce que tout le monde a déjà toujours dit. Donc,
Et puis je voulais juste un dernier truc. Ogier dit ce qu'il pense, et moi je suis d'accord avec lui. Tu sais, J'étais le premier à gueuler. Hein. Moi, j'étais sur le terrain de Vaucluse, j'étais avec mes potes. Quand j'ai vu que Tanak prenait une année sabbatique, voire un peu plus, pour me dire, ouais, il se casse et tout. Mais en fait, moi, ces mecs, je les comprends. Et Sébastien Ogier, c'est le premier à te dire, écoute, maintenant, j'ai 40 balais. Laisser ma femme et ma fille pendant 300 jours par an, j'ai peut-être plus, ou s'en fiche, je sais plus ce qu'il a, s'il a un fils, j'ai plus envie. Mais il est honnête. Il est honnête. Il dit ce qu'il pense. Et moi, en tant que parent, je comprends que lui n'ait plus envie de passer 300 jours par an dans les hôtels, les aéroports, tout ça. Ça n'enlève pas la passion qu'il a pour le rallye. Il veut le vivre d'une façon différente. Et il le dit. Il le dit. Et moi, je trouve ça très bien, comme Optana qui dit, écoutez, moi, j'ai plus que ça, j'ai pas que ça à faire. J'ai plus envie. Ça me... Eh bien, écoute, il a
Oui.
dit, il assume.
Et puis ça reste leur travail. Enfin, je veux dire, il y a une relation entre employés. Si ton employeur il t'accepte un 50% ou un 80% et que parce que tu l'as demandé, bah voilà, c'est un peu la même chose. Là, on peut dire il fait sa diva et machin, il vient choisir ses rallyes et puis ok, voilà, il faut l'accepter. Mais par contre, il faut aussi accepter les gens qui disent ouais, mais il vient un peu fausser le championnat parce que parce qu'il
Oui.
Bah, il va ne pas ouvrir ou partir loin sur la route au Kenya, par exemple, parce qu'il n'aura pas marqué en Suède. Mais ok, mais d'un autre côté, il aura eu un rallye de moins pour marquer des points. Et c'est des points de vue qui s'entendent. Tu vois, quand il va revenir en deuxième partie de saison, où ça va être que des rallyes terre, qu'à la manière de l'année dernière, exactement, il va partir d'en bas, et puis il va remonter petit à petit, petit à petit. Pour au dernier moment, peut-être casser la nuque et passer le sprint final en tête.
Oui, mais ça, je suis
Il aurait
d'accord et pas
peut-être pas pu
d'accord, parce
faire.
qu'en fait, tu prends ça, ok, il fausse le championnat, mais tu prends le cas d'Evans. Qu'est-ce que tout le monde a dit sur Evans? Toi, le premier, t'as dit, ouais, Evans, j'attendais un peu plus, j'attendais un peu plus. Sur chaque rallye, en disant, on attendait un peu plus. Mais finalement, le souffle, il est chaud, il est passé devant et il est champion du monde. Il y a un truc, je ne vais pas être méchant, mais Bertelli, il peut faire 6 rallyes dans la saison, tu sais très bien qu'il ne sera pas champion du monde. Tu sais
Oui,
très bien que
d'accord.
Ogier, quand il vient pour gagner.
Ah, et
Donc,
puis
tu t'adaptes. Tu t'adaptes.
si Toyota lui permet de faire ça, c'est parce
Non, mais.
qu'eux aussi ont un intérêt, qu'ils savent qu'il va venir marquer des points et des gros points. Enfin, ouais, enfin, moi je suis tout à fait d'accord, mais par contre, il faut pouvoir accepter tous les points de vue et regarder factuellement effectivement ce qui se passe. Après, c'est quelque chose qui est permis par le règlement. Bah voilà. Ok, en Formule 1, est-ce que un Verstappen s'amuserait, alors plus maintenant, hein, mais quoique avoir la nouvelle réglementation, mais s'amuserait à ne pas venir sur un Grand Prix parce que bah, il y a les 24 heures du Mans ou il a une course de e-sport avec son équipe. Je pense pas, mais et je sais même pas si c'est permis par le règlement. Là, ça l'est. Donc voilà.
Et tu vois, et c'est moi qui te le dis parce que Jérémy Michel, qu'on connaît bien d'ailleurs, je leur fais coucou et te passe le bonjour, c'est les premiers qui te diront, Fabien, c'est le premier à gueuler comme un veau quand Evans ne gagne pas. Parce que je suis super, mais c'est comme ça. Et Evans, il n'a pas assez fait l'année dernière, il n'a pas assez pris de risques. Eh bien, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Il s'est fait sauter à la fin.
Ouais,
Il s'est fait
ouais.
sauter à la fin, c'est tout. C'est tout. Direction la Suède, le grand froid, tu connais?
Suède, oui, j'ai eu la joie de le faire bah
Avec
justement en
qui?
2012 avec. Eh ben avec le beau-frère ou cousin d'Oliver, c'est très peu connu, mais Pontus Tiedemann,
Oui,
donc
je connais, oui.
c'est de la famille d'Oliver, je crois que les mamans sont sœurs ou quelque chose comme ça. Et donc ouais, j'ai eu la joie de le faire, notamment bah, quand Ogier était avec la Skoda S2000, donc c'était vraiment une très très belle expérience, des conditions vraiment et encore on était du côté de Karlstadt, on n'était pas en haut là vers la Laponie, donc ça promet encore une sacrée belle aventure là-haut, un très beau rallye, et en espérant que bah, que les pneus cette fois posent un peu moins de questions de par l'étroitesse des pneus, l'efficacité des clous. On espère qu'il y ait une vraie vraie bagarre du début à la fin, parce que ça donne toujours des images absolument fabuleuses.
Je vais te demander ton œil d'expert. À part se geler, il faut quoi pour gagner en Suède?
J'ai le droit de le dire là, il faut que je le dise en anglais.
Oui, non, en français, ça ira. Allez.
Je le dis en anglais pour pas être censuré, mais il faut des big balls. Et il faut pouvoir se sortir les, Les mains des poches, comme on dit. Non,
Ah, mais au
il
niveau de l'auto, tu joues sur quoi?
faut.
Sur la hauteur de caisse, sur la
Ah
vitesse,
bah sur
sur.
l'auto, ouais, c'est la hauteur de caisse, c'est les amortisseurs, la capacité d'absorber les chocs, mais aussi, et de plus en plus souvent, à pouvoir se sortir des rails qui sont creusés entre les deux passages. Parce
Ouais.
que notamment, il y a un rail historique aussi qui passe après la première boucle et qui a tendance à vraiment labourer les rails qui ont été faits par le premier passage. Donc il faut être capable d'ajuster justement cette balance, l'assiette de la voiture. Et puis sur les quelques sauts, il faut tout simplement arriver à garder la stabilité de l'auto en l'air. Et il faut énormément de traction, tout simplement. Énormément de
Ouais.
traction, être capable de mettre les clous dans la glace, d'appuyer fort et sans trop les dégrader non plus. Il faut être capable aussi en termes de pilotage de savoir où on peut s'appuyer sur le mur de neige ou pas. C'est pour ça que pendant des années et des années, c'est uniquement des Scandinaves qui ont gagné parce que eux ont cette lecture-là. Ils savent exactement avec l'orientation un petit peu si la neige elle est plutôt molle ou dure, est-ce qu'on peut s'appuyer en fonction de la couleur de la neige, en fonction de l'aspect qu'il peut y avoir. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'ils ont dans leurs notes. Donc il y a cet aspect-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà.
Ok, donc je vais demander aux gens de mettre leurs pronostics sous les commentaires qu'on va mettre pour la Suède. Je vais demander le tien, puis je te donnerai le mien.
Alors, le mien, ça va être. Je vais avoir du. Allez, je vais prendre une grosse cote quand même qui va te faire plaisir. Mais je vais dire Evans. Je vais dire Evans. Derrière. J'aurais quand même du mal à me passer de Solberg parce que je pense qu'il va quand même être vite. Et de toute façon, la Toyota est, à mon avis, tellement au-dessus que même avec une position désavantageuse le premier jour, il va avoir l'occasion de se rattraper. Et puis, derrière. Et puis derrière, j'hésite. J'hésite entre un Katsuta et un Neuville. Mais je vais plutôt partir sur Neuville.
Bon, je vais tenter le gros coup, pire que toi, d'accord? Et je vais argumenter.
Tu vas nous
C'est un
chercher un
Japonais qui l'a
regard.
gagné. Il est passé, il est passé à chaque fois ça.
Ouais,
Il
c'est
peut
sûr.
gagner là-bas. S'il y a bien un rallye où il peut gagner, c'est la Finlande et la Suède. Je vais le mettre vainqueur, je vais te dire pourquoi.
La Finlande, non. La Finlande, non.
Ah, il a fait gagner, hein. Mais bon, Suède, allez, Katsuta. Ça serait la belle histoire. Et puis bon, on parlerait plus voilà, on arrêterait de tailler. On serait obligé de. Non, après, je te dirai Evans, parce qu'Evans a gagné l'année dernière, il se va faire deux. Je vois Solberg sur le podium, parce qu'il va faire peut-être une petite boulette, qui va le gagner. Tu vois, il va perdre un petit peu de temps, et ça sera un triplé Toyota. Derrière, je vois bien Fourmaux, parce que Fourmaux, avant qu'il sorte l'année dernière, il était performant. Il était quoi? Il était 3 ou 4, hein, Adrien, avant de
Ouais.
sortir. Je vois Fourmaux,
Mais
puisque.
la idée, je pense que, enfin, j'espère vraiment me tromper, mais je pense que la Hyundai a pris encore du retard par rapport à la Suède de l'année dernière.
Et après, je vois Lapi. Il ne sera pas performant, mais il sera placé, Lapi. Et puis après, je vois la première Ford, voilà, cinquième ou sixième, parce que bon, loin, mais placé.
Attention,
McErling.
je crois que t'as raison. Il me semble que Armstrong a dû gagner en junior WRC ou
Ouais.
en WRC3 ou quelque chose comme ça. Il me semble avoir entendu qu'il avait été pas trop mal en Suède à une époque. Donc
Ouais.
ouais, pourquoi pas. Mais bon, après, encore une fois,
Non, mais
le.
pas performant, mais placé. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
Comme
oui,
la pile, pas performant,
Non, mais
mais placé. Tu vois ce
je
que
peux
je veux
te dire que
dire?
je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, la problématique, encore une fois, c'est que c'est tellement vite arrivé d'aller perdre 5 minutes, voire plus, dans un mur de neige à sortir. Et que ouais, toutes les erreurs vont se payer cash.
Parce que par contre, si c'est Pajari qui gagne, on passe pour des cons, hein, je te le dis.
Ah, c'est pas impossible non plus. Enfin, bon, quand même, c'est tellement imprévisible de toute façon. S'il y a bien un truc sur lequel on peut pas trop parier, c'est sur le vainqueur final. Hein, mais bon, on va voir. Ouais.
Bon, avant de te libérer, parce que je sais que ton temps est compté, c'est très gentil d'avoir été avec nous. Un petit cadeau à part une Alpine que tu nous as sortie, il n'y a rien d'autre.
Ah bah là, non, ouais, non, désolé, le petit cadeau, il était au milieu de l'épisode, on a essayé d'innover un petit peu. Non, si ce n'est que de dire que au niveau de Automomini Racing et de cette exposition, bah, tout se met en place. Voilà, on a les locaux, les premières vitrines sont en place, elles commencent à se remplir. On a
Ouais.
de belles choses. Il reste à finaliser l'ouverture, hein. On ne sait pas trop encore. On espère que ce soit sur le premier trimestre 2026 ou tout début du deuxième. Voilà, mais c'est quand même des choses qui prennent du temps, mais ça prend forme. Donc, je vous rappelle, une exposition permanente, un peu plus de 6000 miniatures et dioramas, bah, justement pour retracer toutes les grandes heures du sport automobile. Il n'y a pas que du rallye, il y aura de la Formule 1, de l'endurance, du GT, des courses américaines aussi, et surtout un bel espace pour partager sa passion, pour venir passer un petit moment de chill, regarder quelques vidéos, profiter de l'ambiance et donc hâte de pouvoir vous en dire un peu plus. C'est imminent.
Bon, alors, je viens de terminer. Une fois de plus, merci à toi. On se retrouve en Suède, promis. Likez, partagez, commentez si on a dit des bêtises ou pas. Donnez-nous vos pronos. Je voudrais en terminer avec un petit clin d'œil parce que tu en as parlé pendant l'émission. Un petit clin d'œil à Cédric, à notre ami commun. Bon, c'est pas, je fais la pub pour un autre podcast parce qu'il est passé dans un podcast qui s'appelle Histoire de virage.
Ouais, c'est
Voilà.
génial.
C'est très très belle interview. Voilà, on découvre Cédric. Je suis déçu parce que passé un moment, il a dit qu'il avait appris à conduire en regardant des vidéos. Je pensais que c'était moi qui avais donné des leçons, mais en fait, non. Vraiment, il est ingrat avec moi. Donc, non, allez écouter l'émission, écoutez la nôtre. L'émission de Cédric sur Histoire de virage, ça vaut le coup. Et puis voilà. Et puis
Ouais, tout
voilà.
à fait. Et puis ouais, on peut que tirer un grand coup de chapeau à ce grand bonhomme du sport auto français, du rallye français qui a clôturé donc au rallye du Var l'année dernière avec le numéro 1 sur la porte. Ça, c'était sacrément beau. Et puis avec une assistance juste en face de celle qui a été enfin de celui qui a été un de ses adversaires au début avant que les chemins se séparent, mais qui était Sébastien Loeb, et ça faisait chaud au cœur de voir un peu j'allais pas dire la complicité, mais en tout cas les sourires, les rires qui ont pu être partagés entre ces deux grands monsieur du sport auto à différents niveaux, très clairement. Mais en tout
Ouais.
cas, il y a aussi le covoiturage sur Auto Hebdo qui était passé il y a quelques mois, justement après le rallye du Var, où il explique sa carrière, comment ça s'est passé, comment il a évolué. Mais ouais, moi en tant que Stéphanois, ça a été aussi un pilote qui a bercé ma jeunesse, très clairement. Et ouais, c'était émouvant, tu vois, d'être là pour son
Ouais.
dernier rallye. Et ça fait un petit quelque chose. On va le revoir sur des
Oui.
rallyes historiques avec des M3, avec tout ce qui va bien et tout ce qui peut glisser comme il sait le faire. Mais un grand coup de chapeau à lui et puis à ses différents copilotes, parce qu'il y a eu Mathieu Duval, certes,
Gérald.
il y a eu Gérald Bedon, il y a eu Lionel Cura, il y a eu
Marie-Pierre Viou.
Marie-Pierre Viou. Voilà, donc c'est tout des histoires qui étaient basées sur l'amitié, sur la passion. Et c'est exactement ce qui a été le cas jusqu'au bout avec le team HDG Bonneton. Et franchement, ouais, c'est beau le rallye quand c'est fait comme ça aussi.
T'as tout très bien résumé. À part que dire que pas l'apprécier, ça serait être compliqué parce que c'est vraiment un mec sympa, vraiment un
Ouais,
mec
c'est sûr.
authentique.
C'est sûr.
On se dit rendez-vous pour le rallye de Suède?
Ouais, ça
Ouais?
marche.
Bon.
On essaye de faire ça. À
On va
bientôt.
essayer d'essayer de faire un peu plus de 5 rallyes dans la saison, ça serait mieux.
Ouais, l'année dernière, on a été quand même mieux, hein.
Et à partir de la Finlande, on n'a plus rien fait, hein. Je t'expliquais,
Ouais,
c'était
mais
le
bon,
désert.
il y a eu d'autres choses, hein. Bref.
Ouais, on avait
Allez.
des vies bien occupées. Allez, à la prochaine.
À la
Ciao,
prochaine. Ciao.
ciao. Ciao, ciao. The sun lay so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder,
Lions cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine.